marche.
Oui.
Il est allumé.
Oui, c'est bon.
Bon, alors, donc ce soir, le thème, je crois que c'était les quatre vérités, les quatre tâches et les quatre vœux, c'est ça? Où est le hymn book, le thème? Il est là? Et si vous pouvez l'ouvrir à la page. Ah, super. Les quatre vœux, voilà. Très bien. Ok. Alors, je ne vous connaissais pas, à part Joa et Amy. Des autres? Peut-être, je ne sais pas. Alors, donc, je ne veux pas parler trop longtemps. Je vais dire quelques mots sur le thème et puis je préfère de l'ouvrir à vous pour poser des questions, des commentaires sur ce que j'ai dit. Je n'ai aucune idée si vous êtes les bouddhistes, les gens qui s'intéressent au bouddhisme, les pratiquants de zen, alors je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Et donc j'espère que ce que je vais dire n'est pas trop technique, trop spécialisé dans la philosophie bouddhiste. Mais pour commencer, je vais dire quelques mots sur mon parcours. Joa a déjà dit que j'étais un moine Gelugpa dans la tradition tibétaine. Ça, c'est l'école, pas exactement orthodoxe, mais c'est l'école du Dalai Lama. Et c'est une école qui met pas mal d'accent sur l'étude des textes, la logique, l'épistémologie, psychologie, philosophie, les choses comme ça. Alors j'ai passé pas mal d'années avec les Tibétains dans des communautés tibétaines. Mais je n'ai pas vraiment fait les trucs typiquement tibétains comme les mandalas et les pujas et les choses comme ça. Oui, j'ai fait un peu de ça, mais mon étude était principalement sur les textes philosophiques et logiques. Et cela m'a donné un vrai base sur la pensée bouddhiste qui m'a beaucoup aidé à avoir accès à cette tradition. Après quelques années, j'ai décidé de partir, repartir en Orient. Et j'ai passé 4 ans dans un monastère zen dans le Corée du Sud. Et puis après ça, je suis revenu en Europe avec Martine, mon épouse. Et pendant les derniers 30 ans, j'ai consacré mes études et ma pensée bouddhiste sur les origines de la tradition, en étudiant les textes qu'on trouve dans le canon Pali. Et en effet, on a de la chance, surtout en anglais, d'avoir plusieurs traductions maintenant de ces textes. J'ai appris aussi le Pali, mais je ne suis pas du tout un expert. Mais je trouve qu'avec une étude, et pas simplement une étude, je ne suis pas un savant dans une université, je n'ai aucune qualification académique, je ne suis jamais allé à l'université en effet. Je suis ce qu'on appelle en anglais un scholar practitioner. Ça veut dire quelqu'un qui étudie pas mal, mais en même temps, afin de pratiquer le Dharma. Ça veut dire pas seulement la méditation, mais de vivre selon les normes et les valeurs et les idées philosophiques qui animent le Dharma ou le bouddhisme. Alors, je suis pratiquant dans ce sens-là, mais je ne suis peut-être pas croyant. J'ai publié un livre il y a 20 ans qui s'appelait en anglais Buddhism Without Beliefs. Il était traduit en français par Joa, en effet, sous le titre Le bouddhisme libéré des croyances. Mais il n'est plus disponible en français, c'est très difficile à le trouver. On peut le trouver sur Amazon, mais il faut qu'on paye assez cher pour le privilège d'avoir ce livre. Alors c'est dommage, mais ça c'est vraiment mon histoire avec le bouddhisme en France. Les bouddhistes en France ne s'intéressent pas énormément à ce que je fais. Malheureusement, parce que j'habite en France et je parle le français après une façon. Mais dans tout cas, on est là. Alors donc, mes derniers livres, et j'ai... Où est-il ? Celui-là, surtout. After Buddhism. Il est sorti l'année dernière aux États-Unis. C'est un livre un peu technique, mais pas aussi difficile que ça. Et cela est effectivement la conclusion, peut-être, de toutes mes études des dernières décennies, effectivement. Toutes mes idées se trouvent en sorte de finalité, je pense, dans ce livre-là. Alors, si vous lisez l'anglais, il est disponible, mais il n'y a aucune maison d'édition française qui veut le traduire jusqu'à maintenant. Mais ce que j'essaie à faire dans ce livre, c'est de repenser le Dharma, ou repenser plutôt le bouddhisme. Je fais une distinction entre le Dharma et le bouddhisme, qu'on peut peut-être réfléchir après que j'ai parlé. Mais en effet, ce que vous avez sur ce morceau de papier... C'est assez simple, mais ça remonte effectivement à ce que j'appelle l'ADN du Dharma, du bouddhisme. Et l'ADN, c'est pour moi ce que j'appelle les quatre points essentiels qui fait le fondement ou la base de tout que le Bouddha a enseigné et que, après lui, tous les maîtres bouddhistes, dans un sens ou un autre, font référence. Alors, ces quatre sont dukkha, qui veut dire, grosso modo, la souffrance. Mais effectivement, dukkha veut dire, ça c'est une sorte de raccourci pour dire la vie, le vécu. Arising, ça c'est ce qui survient, samudaya, ce qui survient. Et normalement, dans les écoles bouddhistes, ce qui survient, c'est la cupidité, le craving, ou je préfère d'utiliser le mot la réactivité. Alors, on se trouve dans la vie du dukkha, la vie tragique dont nous fait l'expérience, et en chaque instant, plus ou moins, on réagit à cette vie, soit on désire quelque chose, ou on essaye d'éviter quelque chose, ou on interprète ce qui se passe dans les termes de moi et le mien et tout ça. Le troisième de ces quatre termes, c'est Nirodha, qui veut dire la cessation, littéralement. Ceasing, je préfère les gérondifs. You say that? Gérondifs. Doesn't matter. Ceasing. Et ça, c'est le contraire. Littéralement le contraire de arising. Il y a quelque chose qui surgit, qui survient dans nos esprits, dans notre corps, les émotions, les réactions, tout ça. Et après avoir animé notre esprit pendant un petit moment, ils cessent, ils arrêtent, ils disparaissent, ils s'évanouissent. Et ça, c'est le Nirodha. Et le Nirodha, effectivement, c'est un synonyme pour le Nirvana. Et quatrième, c'est la voie, the way, le magga, la voie. Et la voie, c'est, dans le bouddhisme, c'est le chemin octuple. Ça veut dire que ce n'est pas une voie strictement et purement spirituelle, mais c'est une voie humaine qui contient tous les aspects de notre humanité. La façon dont on voit le monde, la façon dont on réfléchit, la façon dont on parle, on travaille et tout ça. Tout ça est compris dans ce terme, la voie. Alors ces quatre sont à la base de ce qu'on connaît très très bien dans tous les pays bouddhistes et même en Occident aujourd'hui, les quatre nobles vérités. Et les quatre nobles vérités sont devenues une sorte de dogme, et j'utilise ce mot pas dans un sens péjoratif, dogme simplement veut dire des croyances de base, les opinions, les vues, les perspectives, les positions philosophiques. Et les quatre nobles vérités sont les quatre dogmes principaux du bouddhisme, dans toutes les écoles. Et ces quatre vérités disent en effet que l'existence est douloureuse, est dukkha, que l'origine de cette douleur, cette souffrance, est la cupidité, le craving, que la cessation de cette souffrance, est la cessation de cette cupidité, cette craving, et la voie qui nous amène à la cessation de la souffrance, c'est le noble chemin octuple. Et j'imagine que si vous avez lu un livre sur le bouddhisme, le plus simple, le plus de base, on rencontre dès les premières pages ces quatre nobles vérités. Alors, je ne veux pas rester très longtemps sur ces croyances. Mais ce qui est intéressant est que chaque de ces vérités sont présentées en termes, en tant que proposition, proposition logique. Ça veut dire qu'il y a un sujet, l'existence, qui a une certaine qualité, souffrance. Deuxième proposition, c'est de nous dire que l'origine de cette souffrance est la cupidité. Troisième proposition, la cessation de cette souffrance, c'est la cessation de cette cupidité. Et quatrième proposition, la voie qui nous amène à cette cessation, c'est le chemin, le noble chemin octuple. Ça nous montre quelque chose. Ce sont des propositions logiques qu'on peut croire ou pas. On a certainement le choix. Un bouddhiste, quelqu'un qui appartient à la religion bouddhiste, est quelqu'un qui accepte que ces quatre propositions sont vraies, sont les vérités. Si on n'accepte pas la vérité de ces quatre propositions, est-ce qu'on peut se considérer comme bouddhiste? Et je crois que la plupart, à moins strictement dit, non, on ne peut pas. Ça, c'est la base logique, philosophique et doctrinale du bouddhisme. C'est très bien connu. Il ne faut pas dire davantage. Mais ce n'est pas la seule façon dont on peut interpréter les quatre. Si on lit le premier discours que le Bouddha a donné à ses cinq disciples, qui s'appellent les cinq ascètes, dans le parc des biches à Sarnath, près de Varanasi en Inde, le texte finit avec quatre pas avec ces quatre vérités, mais avec quatre tâches, quatre choses à faire au lieu de quatre choses à croire. Dès qu'on parle des vérités dans avec basé sur les propositions logiques, on est dans le cadre de croyance. On ne peut pas l'éviter. Ça, c'est le domaine de croyance. À mon avis, c'est possible de repenser ces quatre termes de base, cet ADN du Dharma, dans une autre façon. Et cette autre façon est déjà mentionnée à la fin du premier discours du Bouddha, où il dit, je crois que j'ai une traduction quelque part, attendez. Voilà. Alors, ainsi, voilà le paragraphe, ou la fin de ce texte, le premier discours, où le Bouddha, dans ses conclusions, et il dit, ainsi est dukkha, la vie. Il peut être pleinement compris, il a été pleinement compris. Ainsi est la soif ou la cupidité, la réactivité. Elle peut être relâchée, elle a été relâchée. Ainsi est la cessation, elle peut être vécue, ou on pourrait dire elle peut être contemplée peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est difficile à traduire satchikaroti en français et en anglais aussi. En anglais, on dirait beheld. It can be beheld. Elle peut être vécue. Elle a été vécue. Ainsi est la voix. Elle peut être cultivée. Elle a été cultivée. Tant que ces connaissances de ces modalités, de ces quatre nobles vérités n'étaient pas claires en moi, c'est le Bouddha qui parle, je n'ai pas proclamé à ce monde avec ses hommes et ses êtres célestes, ses dieux et ses démons, ses ascètes et ses prêtres, que j'avais obtenu l'éveil incomparable. Alors ce texte finit avec une définition tout à fait claire et nette de ce que veut dire l'éveil. L'éveil du Bouddha à moi. Et l'éveil du Bouddha, selon ce texte de base, avoir pas avec la vérité, mais avec le fait que le Bouddha a maîtrisé quatre tâches, quatre activités. Et que sont ces quatre activités? C'est de comprendre pleinement le dukkha, ou la vie, l'existence tragique et contingente, impermanente, dont on fait l'expérience ici et maintenant, de comprendre pleinement ça. Le mot en pali, c'est parinya. Pari veut dire entourer quelque chose. Ça veut dire, en anglais, on dirait embrace, embrasser la situation de la vie, d'accepter pleinement comme elle est, de dire oui à la vie, à ce qu'on fait l'expérience, même les choses les plus douloureuses et difficiles, de dire oui. C'est un peu comme le amor fati de Nietzsche, en effet. D'accepter son destin totalement, sans aucune hésitation. Ça, c'est la première tâche. Deuxième tâche, c'est de relâcher relâcher la réactivité qui survient, qui surgisse par rapport avec notre vécu. Alors, ça, c'est de ne pas devenir séduit ni par les désirs, ni par les moments de colère, ni de haine, mais de simplement les reconnaître comme elles sont, ces pensées, ces émotions, ces choses qui surgissent dans l'esprit, de les accepter comme elles sont, mais de ne pas s'identifier avec, de ne pas suivre leur récit. Don't follow their narrative. Troisièmement, de vivre la cessation de la réactivité, de vivre la, ou de contempler, de behold, de, le mot en pali c'est satikaroti qui veut dire de regarder avec les yeux, littéralement. C'est de voir quelque chose, c'est de, mais c'est plus que simplement voir, c'est plutôt même de sentir, de to enjoy. Les moments dans la vie où on se trouve dans un état non réactif, un état de paix, de présence, d'équilibre mental, et d'affirmer cette expérience consciemment. Et dans la méditation, de demeurer, de rester, de se reposer, de s'ancrer dans cette ouverture, cette présence, cette absence d'habitudes réactives. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième, c'est de cultiver la voix devient possible dès qu'on n'est plus conditionné par les réactions habituelles. Et ça, c'est le chemin octuple, comme j'ai déjà mentionné. Et le Bouddha se considère qu'il a obtenu l'éveil parce qu'il a réussi à maîtriser ces quatre tâches. Ces quatre activités. Mais cela, comme est assez évident, j'imagine, n'est pas du tout la même chose que de croire ou d'avoir une certaine intuition des quatre nobles vérités. Ça, c'est franchement quelque chose de différent. Ce n'est pas la même chose du tout. Mais tous les termes qui sont utilisés sont les mêmes. C'est une réconfiguration de ces termes de base. Et c'est, cette configuration, cette nouvelle configuration, ce n'est pas nouvelle parce que ça remonte à ce premier texte, mais dans tous les livres sur le bouddhisme qu'on trouve en Occident, j'imagine qu'il n'y a pas un seul mot sur ces quatre tâches, normalement. Ce n'est pas connu. Ce sont des idées qui étaient là à l'origine de la tradition. Ça, c'est sûr, toutes les écoles sont d'accord sur ça. Ce texte, ce premier discours, est le discours de base. Mais ce qui est bizarre, à mon avis, est-ce que la conclusion de ces textes était totalement oubliée? Ou pas totalement, parce qu'on trouve en effet des références à ces idées dans les autres, dans les traditions qu'on a aujourd'hui. En effet, la première fois que j'ai rencontré cet enseignement, c'est dans un texte tibétain, quand j'avais 25 ans. Et j'étais déjà frappé par ces idées, parce qu'ils n'étaient pas les idées que je connaissais à travers mes études. C'était quelque chose un peu étrange, ça, cette façon de penser. Et j'ai l'impression, en effet, que ce sont des idées qui n'étaient jamais développées. Et au lieu de développer ces idées de tâches, les bouddhistes ont tous concentré sur le développement des quatre nobles vérités. Ça donne une certaine direction, ou cela a donné une certaine direction à la pensée bouddhiste. Et c'est cette direction qui a créé toutes les écoles quand on connaît aujourd'hui. Alors j'ai cherché pas mal, en effet, un peu partout pour des autres enseignements dans les traditions diverses du bouddhisme qui peut peut-être me donner un certain soutien de repenser le bouddhisme selon les quatre tâches. Et ce que j'ai découvert assez récemment, c'est en effet que les quatre vœux dans le bouddhisme zen sont aussi une version de ces quatre tâches. Et c'est ça que je vais expliquer un peu maintenant, et puis après ça, on va discuter entre nous. Les quatre vœux de zen, tous qui ont pratiqué le zen, ici par exemple dans ce petit livret, auraient recité ces quatre vœux. J'ai découvert récemment, selon un auteur, un écrivain japonais, un maître zen japonais qui travaille aux États-Unis, qu'en effet, il a trouvé un sutra Mahayana en chinois, le Bodhisattva's Jeweled Necklace Sutra. Ça veut dire le collier des joyaux du Bodhisattva. C'est un texte du 4e ou 5e siècle de notre ère où le Bouddha, en effet, c'est pas strictement les mots du Bouddha, mais le Bouddha, c'est celui qui parle dans ce texte. Il dit explicitement que ces quatre vœux sont la face en dont il faut pratiquer les quatre nobles vérités. Alors, j'étais très soulagé de trouver une telle source canonique qui dit effectivement la même chose, que les quatre vœux sont effectivement une façon de voir les quatre nobles vérités. Et en plus, ça nous montre qu'en effet, les quatre nobles vérités sont devenues les quatre tâches, et les quatre tâches sont devenues les quatre vœux. Et, alors, que sont donc les quatre vœux? Innombrables sont les êtres vivants. Je fais le vœu de les sauver tous. Inépuisables sont les illusions. Je fais le vœu d'y mettre fin. Sans limite est la réalité. Je fais le vœu de la voir. Insurpassable est la voie du Bouddha. Je fais le vœu de l'incarner. Alors, comment fait le lien donc entre ces quatre vœux et ces quatre tâches? Ça va prendre un peu de temps et on n'a pas vraiment assez de temps de faire tout ça, mais brièvement. Innombrables sont les êtres vivants. Et les êtres vivants, les sentient beings, ce sont en effet les êtres qui souffrent. Et ces êtres qui souffrent sont innombrables. Mais je fais le vœu de les sauver tous. Ça, c'est un vœu qui est fondé sur l'expérience de la souffrance. Dans les quatre tâches, il dit que la souffrance devrait être pleinement comprise. Je comprends ce premier vœu comme la traduction d'une tâche de comprendre pleinement la souffrance à un engagement éthique. Ce que fait les quatre vœux, c'est ce qu'on fait avec les quatre vœux, c'est d'introduire la dimension éthique dans les quatre nobles vérités, les quatre tâches. Maintenant, c'est quelque chose que je fais le vœu de faire. C'est plus qu'une tâche, c'est un vœu de faire ce tâche. Et ce n'est pas simplement de comprendre pleinement la souffrance, qui est toujours un peu abstrait, mais de sauver les êtres vivants dans leur spécificité. Pas dans l'abstrait, mais les êtres vivants que nous rencontrant chaque jour dans notre travail, dans notre famille, dans le monde, les êtres spécifiques qui souffrent. Chaque être devient quelqu'un que j'essaie d'accepter totalement comme il ou elle est et de répondre à sa souffrance dans une façon qui peut lui sauver de cette condition pénible. Deuxième vœu. Inépuisables sont les illusions. Alors, au lieu de la soif, la réactivité, ici on a illusion. En effet, le mot en chinois, je ne sais pas exactement le mot chinois, mais c'est une traduction du mot klesha, les afflictions, les corruptions, les réactivités, le désir, la haine, tout ça. Alors, ces choses sont, pour ce texte ici, inépuisables. Ce sont des choses qui sont tellement imprégnées dans notre organisme, dans notre système nerveux, dans notre cerveau, qui sont, selon la biologie évolutionnaire, sont en effet les résultats, sont les conséquences de notre évolution en tant qu'être humain. On est arrivé à ce niveau de complexité avec nos cerveaux énormes après des millions d'années, des milliards d'années d'évolution. Et ce que nous a donné la capacité de survivre, c'est notre capacité d'obtenir ce que nous désirons, d'éliminer ce qui nous empêche d'avoir ce qu'on désire et de cultiver un ego, un jeu très solide et très fort qui peut imaginer un futur, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos proches, pour notre tribu, etc. Alors, ces forces, ces réactions, ces habitudes sont inépuisables. Mais je fais le vœu d'y mettre fin. Et dans les quatre tâches, la tâche, c'est de relâcher la soif. To let go of craving. Ici, c'est d'élever cette tâche à un engagement éthique de mettre fin à ces illusions malgré le fait qu'ils sont inépuisables. Et j'aime beaucoup cet aspect paradoxal de ces quatre vœux, qu'en effet, chaque vœu est impossible de réaliser, de accomplir. Si les êtres vivants sont innombrables, c'est strictement impossible de les tout libérer de leur souffrance. Si les illusions sont inépuisables, idem, c'est la même chose. Sans limite à la réalité, je fais le vœu de la voir. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec la traduction. En chinois, il dit que ce n'est pas la réalité qui est sans limite, mais les pop moon en coréen, on l'appelle japonais, ho men, les gates, les portes de dharma gates, are innumerable. Je fais le vœu de les voir. En effet, le mot en chinois, c'est pas voir, c'est étudier, de les comprendre, de les étudier. C'est plutôt ça. Et les portes de Dharma, you say that? Dharma gates, les portes de Dharma? Les portes de Dharma, les portes de Dharma. Qu'est-ce que sont les portes de Dharma? Dans les explications orthodoxes, les portes de Dharma veut dire tous les enseignements du Bouddha. Ce sont des portes à travers lesquelles je peux arriver à la sagesse et tout ça. Mais je préfère de comprendre ce terme, porte de Dharma, comme chaque situation dans la vie est une porte de Dharma. Chaque moment de notre vécu est une porte de Dharma. Et en effet, le Bouddha dit des fois, surtout dans les textes plus tardifs, qu'il y a 84 000 portes de Dharma. Et je crois que ça, c'est simplement la façon de dire que chaque chose de la vie, le bien, le mal, de n'importe quoi, chaque personne, chaque situation dans la vie, c'est une porte de Dharma. Il peut être étudié, compris et transformé en quelque chose et qui peut nous donner des moments de insight, de compréhension, de sagesse, de tolérance, de compassion, d'amour. Il n'existe pas une situation dans la vie qui ne peut pas être transformée en un enseignement de Dharma. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la cessation de la réactivité et quelque chose qu'il faut vivre ou de contempler? Quel est le lien entre ces deux-là? C'est pas du tout évident. Une porte de Dharma, d'étudier, de comprendre les portes de Dharma, comment ça devient, cela a quel lien à cette idée avec vivre la cessation de la réactivité. Je donne quelques indications. C'est vrai que mon argument est peut-être un peu faible ici. Je suis pas aussi convaincant, convincing. Mais si on réfléchit un peu, qu'est-ce que c'est une porte? On est entré dans cette pièce à travers une porte. Une porte est un espace vide qui peut être fermé. La porte, c'est ce qui ferme et ouvre cet espace. Alors, un espace, ça nous donne la possibilité de passer ici de la rue dans la salle, dans la maison. Alors, une porte de Dharma symbolise ce passage d'un endroit ou d'une situation à une autre. C'est une image de transformation. Et on peut considérer chaque situation dans la vie comme une sorte de passage potentiel à moi qui nous donne la possibilité de se transformer. En rencontrant cette situation, on peut s'engager avec dans une façon qui nous donne compréhension, sagesse, toutes ces qualités que les bouddhistes veulent cultiver. Et c'est un espace vide. La cessation ici, c'est la cessation de la soif, la cessation de la réactivité. C'est aussi un espace vide. C'est une porte, symboliquement. Alors, chaque moment de notre existence, on a la possibilité de ne pas réagir, de ne pas être sous l'emprise de nos habitudes habituelles. On a la possibilité de cette liberté de réactivité en chaque moment. Et ça, cette cessation, ces moments où on n'est plus sous l'emprise de ces choses, strictement dit, ce moment-là, c'est un moment du nirvana. Le nirvana n'est pas un but final où on arrive après plusieurs vies de pratique bouddhiste. Le nirvana, c'est une possibilité qui réside en nous-mêmes, ici et maintenant. Et c'est la capacité, et c'est pas un état ontologique ou mystique, ou quelque chose d'une réalité ultime, ou quelque chose comme ça, mais effectivement, le nirvana, cette absence de réactivité, est un état éthique. C'est un état qui nous donne la possibilité d'agir différemment, de penser différemment, de parler différemment. Et pas différemment, je veux dire, de parler, de penser, d'agir sans être poussé par les réactions habituelles. Ce sont des moments de liberté. Alors chaque situation dans la vie, en tant que porte de Dharma, est un moment, un instant de la possibilité de liberté qui est une liberté nirvanique. Nirvana n'est pas le but de la voie, mais nirvana, selon ce système d'interprétation ici, est l'ouverture, c'est la porte qui nous donne la possibilité d'entrer, avoir accès à la voie octuple de la pratique bouddhiste. Alors donc, le dernier vœu insurpassable est la voie du Bouddha, ça c'est explicite, et je fais le vœu de l'incarner. Et ça c'est une bonne traduction à mon avis, mais ça correspond très très facilement avec la quatrième tâche, ainsi est la voie, elle peut être cultivée. La voie, c'est le chemin octuple, ici c'est la voie du Bouddha, c'est la même chose. Et maintenant, on fait le vœu de pratiquer ce chemin, pratiquer ce chemin du Bouddha. Alors, ça c'est... ouais, dans 45 minutes, c'est beaucoup plus que je voulais parler, mais je suis un peu comme ça. Dès que je commence, je n'arrête pas. Mais je vais arrêter maintenant. J'espère que cela, c'était très très condensé, très très compact. Mais j'espère que cela avait un certain intérêt pour vous. Mais je suis disponible maintenant à vos questions, aux commentaires, si vous voulez me poser des... soit sur ce que je viens de dire, ou soit sur quelqu'un d'autre, c'est à vous, oui.
Est-ce que j'ai bien compris que ce que tu vois comme différence entre la grande tradition et ta propre recherche, c'est que la grande tradition parle de quatre vérités...
La grande tradition.
Oui.
Le bouddhisme en général, oui. Le bouddhisme en général parle de quatre nobles vérités.
De quatre nobles vérités en tant qu'un état, alors que toi, tu insistes sur la pratique, c'est ça?
Non, c'est trop simpliste, parce que, effectivement, tous les bouddhistes font de la pratique. Et la pratique, c'est quelque chose qui est très important dans toutes les écoles du bouddhisme. Ce n'est pas seulement une question de pratique. La différence est plutôt les raisons pourquoi on fait la pratique. C'est une question de motivation, finalement. Dans le bouddhisme orthodoxe, Si on croit profondément dans la vérité des quatre nobles vérités, cela vous donne une raison de pratiquer. Parce que si le but de votre pratique, c'est d'éliminer la souffrance, de faire fin à la souffrance, et si l'origine de la souffrance, c'est la soif, donc il faut faire quelque chose, et si on veut faire fin à la souffrance, il faut logiquement faire fin à la soif. Pour faire fin à la soif, il faut pratiquer la méditation, vivre selon les préceptes, tout ça, et finalement, en théorie, on sera, on achèvera soit la bouddhéité, soit le nirvana final, soit on devient un arhant ou quelque chose comme ça. Alors voilà la pratique. Mais ce pratique-là est basé sur des croyances qui sont, à mon avis, effectivement les propositions métaphysiques. La différence ici, est-ce que on n'a plus besoin de croire dans quelques propositions pour pratiquer le Dharma. On n'a plus besoin de croire que la soif est l'origine de la souffrance. Pour moi, la soif est l'origine de la souffrance. Est une croyance métaphysique qui est effectivement exactement la même chose que le Dieu a créé le monde. La soif est l'origine de la souffrance. La souffrance, ça c'est la maladie, la vieillesse, la mort. Et la soif est l'origine de la vieillesse, de la souffrance, de la maladie. La soif, c'est la cupidité. C'est une traduction littérale du mot tanha. Tanha veut dire. Normalement, on le traduit comment?
Non, on le traduit plutôt par attachement.
Clinging, non, c'est pas clinging non plus, c'est craving en anglais. Avidité, peut-être. Avidité. En anglais, on dit presque toujours craving, qui est assez bien en effet. Mais c'est avidité, oui, ça c'était le mot que je cherchais. Et en bouddhisme, on croit que cette avidité est l'origine de la souffrance. Et afin de mettre fin à la souffrance, logiquement, on a besoin de mettre fin à l'avidité. C'est logique. Et l'avidité est fondée sur l'ignorance dans plusieurs traditions. Alors, pour mettre fin à l'avidité, il faut mettre fin à notre confusion, notre illusion, notre concept d'être un soi permanent et tout ça. Mais tous ces arguments, toute cette perspective sur le bouddhisme n'a rien à voir avec ces quatre tâches, finalement. Les tâches sont simplement les choses qu'on peut faire par rapport avec l'existence de la souffrance, de la vie. Et ce qui est important n'est pas où est l'origine de la souffrance, mais plutôt la souffrance est là et il faut faire quelque chose avec. Et la souffrance n'est pas un truc abstrait, c'est un truc spécifique et concret. Et il faut dire oui, il faut accepter, il faut embrasser, il faut comprendre pleinement, qui est une traduction littérale des termes pali, la situation où on se trouve ici et maintenant. On n'a pas besoin de croire anything. Si l'avidité est l'origine de souffrance ou pas, ça n'a rien à voir avec la tâche de embrasser, de dire oui à la situation immédiate, concrète, ici. Deuxième tâche, c'est de lâcher prise, c'est de relâcher.
Oui, lâcher prise.
Lâcher prise des réactions égocentriques, principalement, qui surgissent habituellement en face des situations de la vie. Si ces réactions sont l'origine du dukkha et pas, cela n'a rien à voir avec ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de ne plus vivre sous l'emprise de ces patterns, ces habitudes, ces dessins intérieurs. Alors c'est une activité à faire quelque chose. Et on peut faire ces quatre pratiques sans aucune croyance bouddhiste, finalement. Et c'est ça la différence. Oui, c'est exclusivement pratique et éthique, cette approche. L'autre approche traditionnelle est fondée sur certains dogmes métaphysiques. Et cela pourrait facilement amener les gens à mener des vies très très belles, très très bonnes avec tout ça. Sérieux, j'ai aucune suggestion que cela ne peut pas donner une vie très riche. Mais personnellement, je trouve que ces croyances sont simplement irrelevant. Irrélevant.
Insignifiant.
Aucun intérêt. J'ai laissé.
Qu'est-ce que tu appelles éthique?
Éthique, c'est une. Je veux dire pas simplement d'être moral. Éthique, je le comprends plutôt dans le sens grec, des anciens philosophes grecs. Éthique est basée sur le terme en grec ethos, qui veut dire caractère ou personnalité. Et la pratique d'éthique, c'est très très lié avec les préceptes moraux et tout ça. Mais c'est plutôt de vivre. I'll say this in English. I try to live in such a way that I can become the person I aspire to be. How do you say that? J'essaie de vivre. De devenir la personne
à laquelle
j'aspire.
D'être. J'aspire d'être.
J'aspire d'être.
And who is doing that?
You are. Okay, on peut donner quelques exemples. Très souvent, on se trouve peut-être dans une disputation au travail ou quelque chose et on dit des choses que plus tard on regrette. Et avec ces réflexions, on se dit des fois, ma réponse n'était pas digne de moi. Alors, l'éthique, finalement, c'est de mener une vie qui est digne de vous-même. Et c'est, évidemment, c'est vous-même qui décide. Qui est la personne que j'aspire de devenir. Alors c'est dans ce sens-là d'éthique. Éthique est normalement cadrée par les préceptes ou les vœux ou les lois même d'une société. Mais éthique est ce qui est, ça c'est le pratique de la morale, au lieu de simplement suivre de respecter les préceptes, mais c'est plutôt d'agir dans chaque situation dans une façon qui corresponde à la personne dont on essaie de devenir, de pratiquer une vie qui nous donne une dignité dans nos propres yeux et dans les yeux des autres. Oui.
L'ordre des quatre vœux,
ouais.
Peut-être qu'il est important, les choses ne se font pas sans simultanées, pas forcément séparées quand c'est dans l'action, en fait, mais est-ce que le fait de partir sur les êtres sensibles, enfin les êtres vivants, mm-hmm. Est-ce que ça appelle quelque chose comme l'amour et la compassion tout de suite pour pouvoir enchaîner
sur le reste. Exactement.
C'est important, en fait.
Oui, absolument. En effet, non, ça c'est quelque chose assez central à mon argument. Et ça remonte à mes premiers... lorsque je suis devenu bouddhiste à l'âge de 20 ans, quelque chose qui m'a toujours rendu perplexe était l'ordre des quatre nobles vérités. Pourquoi les quatre nobles vérités sont organisées dans cette façon? On commence avec la souffrance, qui était un effet, et puis, deuxième, on remonte à la cause, l'origine de la souffrance. Effet, cause. Et puis, troisièmement, le nirvana, la cessation de la souffrance, ou la cessation de la réactivité, est encore une fois un résultat, et la cause, l'origine, qui nous amène à cet état, c'est le chemin octuple. Le chemin octuple, c'est la cause, le nirvana, c'est le résultat. La souffrance est le résultat, l'avidité, c'est la cause. Pourquoi est-ce que c'est organisé dans cette façon? C'est pas du tout... I found it aesthetically unpleasing. And I think that's important. L'esthétique est quelque chose assez central pour moi. Mais ce que j'ai résolu ce problème plusieurs années plus tard avec ces quatre tâches. Parce que les quatre, si on regarde les quatre nobles vérités en tant que tâches, le premier tâche amène au deuxième, le deuxième au troisième, le troisième au quatrième. C'est beaucoup plus logique. Et ça suit aussi le principe central dans le bouddhisme de l'origine dépendante. Pas interdépendante. Ça c'est une faute de traduction. Dependent origination. L'origination dépendante des choses. C'est pas très important peut-être d'être ici, mais les quatre tâches, en effet, on commence avec comprendre pleinement la souffrance. Et c'est comprendre pleinement la souffrance d'une personne, d'un être. Et ça, évidemment, on a besoin de la compassion, l'amour, dès le début. Ce n'est pas quelque chose à la fin de la voie. C'est quelque chose qui est déjà implicite dans le premier tâche. Et si on pourrait vraiment vivre dans ce monde avec une acceptation totale de ce qui se passe en chaque instant, si on vit chaque moment avec une conscience de l'impermanence, de la mort, de l'aspect tragique de la vie, ça fait déjà un effet sur la façon dont on réagisse à cette situation. Si on savait dans le cœur que la personne avec laquelle vous avez des problèmes est quelqu'un qui va mourir, cela changerait totalement la relation avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui nous embête, mais c'est un être comme nous qui respire chaque moment, mais chaque respiration pourrait être son dernier. Si on pourrait vraiment habiter le monde de cette perspective-là, cela transformerait nos habitudes de réagir, et nos réactions sont presque tout, les réactions égocentriques, ce que je veux dans la situation. Alors la transformation commence déjà.
But isn't it the same? I mean, if I fully understand, then it's the truth.
J'ai pas besoin de ce mot truth. Truth complique les choses unnecessairement. C'est pas the truth. Pour moi, le truth, le mot la vérité. J'ai plus besoin de ce mot-là. Non, ça c'est pas vrai. La vérité devient effectivement une pratique éthique. Et en effet, si on regarde comment le Bouddha a utilisé le mot vérité, à part les moments où il utilisait, où il disait les quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités, c'est une phrase qui se répète toujours dans les textes. Mais à part cet usage de vérité, lorsqu'il parle de la vérité, il parle de la vérité en tant que, qu'un vertu. Is that what you say? A virtue?
Virtue.
Un vertu qu'il faut cultiver. Mm. Alors, satya en sanskrit, veut dire dans les textes les plus anciens, ça veut dire quelque chose un peu comme honnêteté. Honesté. C'est une pratique. On pratique la vérité. En étant honnête avec soi-même, honnête avec les autres, on ne dit pas des mensonges, on essaie d'être clair et honnête dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on communique. Dans ce sens-là, j'ai aucun problème avec vérité, évidemment. Mais j'ai énormément de... Je me méfie d'utiliser le mot vérité dans le sens de la vérité. La vérité ultime.
Dans ce sens-là, on est plus dans l'illusion, du coup. L'illusion de soi-même et des autres.
Comment ?
Dans ce sens-là, on sort de l'illusion. Dans ce sens-là, de la vérité, en fait.
Oui, mais on n'a plus besoin de cadrer le pratique dans les termes vérité et illusion. Pour moi, le Bouddha n'avait aucun intérêt dans l'ontologie. Il ne s'intéressait pas à la vraie nature des choses, les trucs comme ça. Et philosophiquement, le Bouddha des textes les plus anciens était un sceptique, sceptique. J'ai pas le temps de parler plus, de dire plus que ça, mais il ne s'intéressait pas à la vérité. Et la vérité devenait pour lui un obstacle. Ce que il enseignait était une façon de vivre dans ce monde et c'était totalement basé sur la rencontre avec la souffrance, pas avec la réalité. La réalité n'avait rien à voir avec ça. Oui.
C'est pour ça peut-être que le bouddhisme, pour beaucoup de gens, moi et un peu, c'est plutôt une psychologie qu'une religion. C'était tourné par une religion parce que c'est... Je crois que c'est la nature humaine d'avoir une religion. Mais le bouddhisme, ce que tu donnes de la communauté, c'est plutôt une psychologie. Les quatre tâches, votre quatre tâches montrent ça.
Non, je ne suis pas d'accord. À mon avis, le bouddhisme, il a certainement une psychologie assez... how do you say, insightful... Une psychologie très très bien, je dirais. Il y a certainement une psychologie qui est assez centrale. Mais pour moi, le bouddhisme était au début ni une religion, ni une psychologie.